C'est la nouvelle année, ça commence bien. Moi, je danse déjà avant l'heure, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Hein. Ça va peut-être se ressentir dans ma voix. C'est que hier, j'ai fait un périple, on dirait que je faisais un Paris-Dakar. Parti de Paris à 19h, je suis arrivée à la Verpillière chez moi, autour de minuit, terrible. Parce que entre-temps, on est arrivé à la Part-Dieu, un bug, et le train ne peut pas partir. On ne peut pas entrer à Lyon, on ne peut pas sortir. Alors, Vigipirate, c'est très bien. Moi, je reviens de Meaux. La ville est sécurisée. Je me suis sentie vraiment en sécurité comme jamais dans cette ville où la racaille sévissait. Monsieur Copé a fait du bon travail. Quand elle dit lui fait du bon travail, il faut le dire. Alors, j'arrive à Lyon. Vigipirate est là, bien sûr, mais on n'a pas prévu que Vigipirate allait peut-être frapper ailleurs. Le bug informatique, on ne peut pas entrer sur Lyon, aucun train qui entrait sur Lyon. 56 minutes, un TGV arrivant de Montpellier, j'ai entendu. On ne peut pas bouger, c'est terrible. Comment on peut, pendant les vacances, avoir un bug informatique? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse parce qu'on a une culture de la médiocrité comme ça qui nous parasite et nous supportons ces choses-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Comment on en arrive là? J'avais parlé du clientélisme la dernière fois. Et dans ce clientélisme-là, moi, je mettais déjà le fait que les partis sont l'espace sponsorisé comme ils le sont là par les banques et toute l'élite, magouille et compagnie, où on est élu parce qu'on est déjà nommé au sein du parti. Hein, vous voyez, l'élu, enfin, il court ses risques zéro, en gros. Cette culture de risque zéro qui s'associe à la culture de la cooptation fait que l'élu, après, il fait son marché auprès des citoyens qui aussi sont devenus des... Enfin, on ne va pas les qualifier, laissons tomber. Le citoyen fait son marché et il est vrai que c'est une conjonction assez particulière que de voir que l'élu voyou et le citoyen voyou marchent ensemble. Le citoyen voyou, il a besoin d'élire un élu voyou parce qu'après il va lui renvoyer l'ascenseur comme on dit, et toute cette culture là entretient la médiocrité qui fait que personne, l'élu n'est jamais sanctionné parce qu'il compte sur ses clientèles nombreuses parce qu'elles ont des demandes individuelles. C'est une culture très française qui est pénible parce que du coup on ne peut rien critiquer, ne critiquez pas la SNCF surtout, son patron est sorti, il a dit qu'il était prêt à remettre son mandat si on le convoquait, il est convoqué là en janvier. Mais les patrons, comment est-ce qu'on les nomme? C'est un système aussi à risque zéro. C'est le pantouflage qui fait que, voilà, on nomme, sorti d'Elina, les copains se nomment aux directions des banques, aux directions de ces entreprises publiques. Après, j'ai lu que pour lui, il fallait que... Enfin, il n'était pas là pour écouter les états d'âme, mais un chef qui parle déjà comme ça, il n'a qu'à s'en aller. Parce que, justement, il y a question d'état d'âme. Lorsqu'on passe 4, 5, 6, 7, 8 heures pour un Lyon-Paris, c'est vrai que là, c'est bon, ça, on a des états d'âme. On a le droit d'avoir des états d'âme, quand même, monsieur le PDG. Et je ne sais même pas comment on les appelle. Ce directeur qui se montre déjà méprisant comme ça c'est aussi une culture française. Il est méprisant parce que c'est risque zéro. Il risque quoi? Il quittera là, il ira ailleurs, on donnera un autre poste, peut-être Air France. J'ai vu quelqu'un dans le train hier qui a quand même pu finalement partir et qui disait qu'il va à Fort-de-France. Qu'est-ce que vous faites dans le train? Bah, il y a eu un bug quelque part. Il est descendu, il n'a pas de navette pour aller à Genève, il n'a pas de bagages, il n'a pas de colis, il est comme ça, il va louer une voiture, je sais pas où là. Et puis il va remonter sur Genève pour avoir son avion le lendemain. Bon, peut-être que le PDG de la SNCF ira à Air France. C'est du pareil au même. Pas de risque, clientélisme, culture de la médiocrité qui s'auto-entretient. Comment on fait pour changer la vie des gens? Je me demande comment on fait. On continue toujours, hein, on continue, c'est là on lance l'année. Comment donc sortir de cette culture du risque zéro et du clientélisme pathologique qui frappe la France? Comment faire? Je prends trois exemples. Trois exemples. Déjà, la SNCF, on revient là-dessus. Quand même, hein, ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas prévu ce rush pendant les vacances. Ça a toujours été comme cela. Ça pouvait caler en augmentant parce qu'il y a la démographie et qu'on vienne aujourd'hui nous dire que et on fait l'équivalent de Airbus 380 en, je sais pas, en 1 heure. Bon, c'est trop facile. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Ce sont des bugs informatiques. Les bugs informatiques, c'est terrible à un niveau comme celui-là. Parce que ça montre que ben, les terroristes sont plus forts. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi cette histoire-là? En plein déplacement, il y a un bug, on s'arrête 1 heure, 2 heures. Non, il y a une attaque. Et si des informaticiens ne peuvent pas faire face à cela, ben, je suis désolé, il y a un gros souci. C'est peut-être pas le PDG de la SNCF qui est responsable, mais il devrait faire en sorte que cela ne se produise pas. Alors ceux qui sont responsables de cela, ben, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Et sans état d'âme, pour le coup, j'ai envie de le dire. Après, on peut prendre, j'ai entendu dire qu'il y avait toute une politique qui allait être mise en place pour relancer l'emploi. Et puis, on va parler encore des petites mesures. Mais parlons des banques qui viennent de chasser Marine Le Pen, parce que là aussi, on a cette culture du risque zéro qui finit par le terrorisme social, qui fait qu'on ne peut plus s'opposer à qui que ce soit. Madame Le Pen a été la rivale, enfin la rivale qui était opposée à l'adversaire du président. On la sanctionne parce qu'elle a osé être l'adversaire du président, lequel président a été soutenu par les banques. Les banques aujourd'hui, elles ont quoi comme responsabilité? Rien du tout, cahier des charges zéro. En fait, il suffit avec l'Union européenne satanique là que ces banques prêtent de l'argent aux États pour faire leurs chiffres. Elles n'ont besoin pas de prêter l'argent aux particuliers, à aux partis politiques qui peuvent faire de l'ombre à leurs candidats. Je veux dire, comment peut-on créer l'emploi sans s'attaquer de front à la question non seulement déjà de la compétition entre les agences d'intérim là et le Pôle emploi, tout ce bazar qu'il y a là et les subventions qui circulent, on ne sait pas trop comment, sans s'attaquer à cela et sans s'attaquer aussi, on va dire l'assistanat, c'est trop facile, ça je mets de côté, et sans s'attaquer aussi à la création d'entreprises, parce que ce sont les nouvelles entreprises créées qui vont créer l'emploi, c'est pas les gros trucs comme Lafarge déjà installés là, qui vivent que de subventions, qui vont le faire, et des subventions accessoirement de livraison d'armes. Donc, comment on va faire cela? Aujourd'hui, là, j'avais rendez-vous avec une société qui sous-traite la robinetterie des appartements, je ne vais pas la nommer parce qu'ils vont se fâcher. En France, on nomme personne et vous nommez quelqu'un. Ah, il n'en peut plus. J'ai rendez-vous, ils sont venus, sont pas venus, c'est pas trop. Mais déjà, il fallait attendre 14 jours pour une question de robinetterie. L'eau coule, l'eau fuit, il n'y a pas de pression. Après, là, ça se prolonge, vous pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que cette société-là a signé quelque chose avec mon bailleur, que je vais pas aussi nommer, et on est là de monopole à monopole, alors qu'il y a beaucoup d'artisans plombiers sur place qui ont besoin de travailler. Alors, il faut faire travailler la société et casser ces monopoles, comme ces grandes surfaces nées de partout, vous savez, ces zones marchandes-là, qui ont tué le commerce de proximité, qui ont tué la vie sociale, qui ont tué la convivialité, et on voit pas tout cela. Tout ce qu'on voit, c'est le profit de certains, de quelques-uns, et cette façon de geler l'activité, comment on dégèle la société, c'est ces choses-là qu'on a envie d'entendre. Moi, j'ai parlé de reboot. Il faut rebooter la société. Et alors, on me dit, oui, mais ça se fait doucement, ces choses-là. Pourtant, il devrait être possible pour un créateur d'entreprise aujourd'hui au sein de l'Europe d'aller emprunter l'argent dans une banque, pourquoi pas allemande, pourquoi pas espagnole, c'est ce qu'on voulait. Parce que les banques françaises, elles vous étouffent, elles donnent rien, elles bouffent tout, et après, on doit se taire. C'est la fête, hein, on peut se permettre. L'émission se poursuit. Comment on crée la concurrence, comment on crée les conditions d'une concurrence vraie, comment on crée la sortie de ce système dans lequel nous sommes englués, où la médiocrité domine tout, comment on fait cela? Il y aurait beaucoup, 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 beaucoup à dire, énormément à dire. Mais je vais dire quoi? Je vais dire... En parlant de changement, parce que nous avons besoin de changer, j'ai mis cette musique africaine là, d'abord parce que c'est bien qu'on écoute aussi d'autres musiques. Hein, voilà, il faut pas toujours écouter la musique américaine là, qui vient avec des gros sabots et écrase tout le monde. Non, on peut écouter autre chose. Et je la mets aussi parce qu'il faut des. La France commence à tomber un peu dans les travers de ce qu'on a laissé en Afrique. Une forme de médiocrité comme ça permanente qui fait que aujourd'hui George Weah est élu au Libéria. Il fallait pas s'attendre à autre chose. Il est vrai qu'il a été bon, c'est quand même quelqu'un, c'est pas Schwarzenegger hein, qui est allé en Californie comme ça se levant de Hollywood direct gouverneur de Californie. Non, c'est quand même quelqu'un qui a fait du social un peu. C'est un peu le profil d'Obama hein. George Weah, c'est le profil d'Obama, donc on est un peu comme ça dans les spectatives. Et puis il a eu l'intelligence de se présenter aux élections, enfin, des élections. Sénateur en Afrique, ça ne veut rien dire du tout. Moi, je sais qu'au Cameroun, on est sénateur parce qu'on a eu une carrière politique avant et puis on est sénateur parce qu'on est remercié. Lui, je ne pense pas que c'est le cas, mais bon, c'est généralement facile. Si vous faites du social, vous serez sénateur. Vous serez élu, député, sénateur, tout ce que vous voulez, maire. Et à son niveau, parce qu'il a fait beaucoup de social. Et ensuite, il a eu l'intelligence de s'associer avec l'ex-femme de Charles Taylor, qui est accusée des génocides au Libéria. C'est quand même une, comment je vais dire, c'est un attelage assez spécial. Je sais pas si c'est pour rendre justice à Taylor, là, ou si pour avoir une caution politique, parce que George Weah lui-même, ancien sportif, il n'en a pas de caution politique, mais en Haïti, bon, on a un président qui est ancien musicien. La question n'est pas de savoir si on est ancien musicien, ancien sportif, qu'on n'a pas l'expérience. Bon, il faut l'expérience quand même. La question surtout, c'est si on est un autodidacte. Si on est un autodidacte, c'est très bien. Mais si on arrive comme ça, parce qu'on veut faire l'aventurier, parce que tout est égal à tout, il y aura un souci. Et de toute façon, George Weah, c'était, j'ai envie de dire, du cousu-ma doublement. D'abord, il y a eu des observateurs internationaux. Ça fait un peu tiquer, parce que eux, quand ils arrivent, en général, c'est pour magouiller un peu, comme on l'a vu au Kenya, où les élections ont été annulées parce que justement des observateurs internationaux étaient venus là, comme en Côte d'Ivoire, où ils ont fait gagner celui qui avait perdu. Là, sous réserve de cette présence des observateurs, qui moi me gêne beaucoup, on est d'accord pour le score, c'était évident. Dans n'importe quel pays africain aujourd'hui, quelqu'un comme George Weah ou un nouveau profil voilà qui tient la route passera parce que c'est corruption, c'est médiocrité, c'est paradis fiscaux, c'est des petites mesurettes dans leur porte-pièce, voilà, on va changer des petits bouts de ci, de ça, sans avoir le reboot. Et moi, j'ai dit bonne chance à George Weah. Je ne le souhaite que du bien. Ça va pas être facile. Ça va être très difficile, comme en France, où on fait comme si tout allait glisser comme cela, comme cette pente de ski que vous avalez. Non, je pense pas. Mais là-dessus, j'ai fait une lecture. C'est une lecture qui s'appelle « La psychanalyse du feu ». La psychanalyse du feu, c'est de Bachelard. un autodidacte devenu philosophe, qui a une écriture, ben, comme on n'écrit plus, hein. Si, là, ici, je dois quand même dire, rendre hommage à Jean d'Ormesson, qui disait que, il faudrait qu'on arrive, on a perdu cette aptitude à citer carrément des phrases, des paragraphes d'un auteur. Alors, quand j'étais en première, on récitait Aimé Césaire, le cahier d'un retour au pays natal. On a perdu cela parce qu'on a la culture du net, là, et la culture du flux. On n'arrive plus à retenir des très 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 belles phrases qui vous amènent très très loin. La psychanalyse du feu, je retiens là, je l'avais déjà lu, ben je le relis, et il peut vraiment nous éclairer, d'autant plus qu'on parle beaucoup de feu en ce moment, depuis la mort de Johnny, allumer le feu, et aussi cette histoire de feu, l'apocalypse qui viendrait comme ça changer les choses, bouleverser le monde. Il dit très bien que le changement fait partie de la vie. Lorsqu'il s'écoule tout doucement, il fait partie de la vie. Et lorsque ce changement est rapide, là, il appelle un peu le feu, on passe quelque chose qui serait de l'ordre du survivant. Donc le feu a cette capacité d'être à la fois ce qui est vivant là au niveau de la rade terre et puis ce qui s'élève comme ça au ciel par les flammes qui brûlent et qui apporte du changement radical. Ce serait quelque chose comme le reboot, c'est ça qui m'intéresse là dans cette histoire de psychanalyse du feu. Et il ajoute que l'être humain, contrairement à ce qu'on dit souvent, a un besoin de connaissance qui n'est pas forcément, qui n'est pas fondé. Enfin, il a une soif, c'est ça, de connaissance qui n'est pas fondée dans le besoin, mais qui est fondée dans le désir, que l'être humain est un homme de désir. Alors, ce désir, il est ancré dans le rêve, lequel rêve se nourrit comme ça au mythe, un double mythe, hein, le mythe de Prométhée et le mythe de et l'Œdipe. L'Œdipe étant et le Prométhée se rejoignant sur quelque chose de fondamental qui est que je veux savoir, moi, être humain, il faut que je m'élève au niveau de mon père. Et une fois que je me suis élevé à son niveau, c'est le Prométhée, connaître autant que le maître, et après, il faut connaître plus. Donc ça veut dire qu'il faut le tuer et c'est là où l'Œdipe entre en jeu. Tout ça est symbolique, hein, puisqu'on parle de psychanalyse évidemment. Tout ça fait que on a toujours, on doit, l'être humain rêve toujours d'aller plus loin que là où son père s'est arrêté. Et c'est ça qui fait que normalement nos politiques devraient toujours se dépasser, mais elle ne se dépasse pas, enfin, il ne se dépasse pas, et elle aussi, puisque il ajoute que, enfin, il précise quelque chose qui est bien, c'est qu'il parle des fausses marques. Vous savez, la fausse marque, c'est le faux poids des valeurs non discutées. Alors ça, c'est très important. Le faux poids des valeurs non discutées, je ne vais pas vous parler de tous ces mots interdits, de toutes ces périodes historiques qu'on n'a pas le droit de revisiter, de toutes... Alors, il précise que ce sont ces convictions non discutées, ça c'est lui qui le dit, sont autant de lumières parasites qui troublent les légitimes clartés que l'esprit doit amasser dans un effort discursif. Mais ça, c'est rien que je veux dire, ces quatre phrases, ces deux phrases, ces convictions non discutées sont autant de lumières parasites qui troublent les légitimes clartés que l'esprit doit amasser dans un effort discursif. L'effort discursif étant un peu comme ça, tout ce qu'il y avait, on peut parler, on peut dire la rhétorique, on peut aussi parler de Hegel, dans la logique. Pourquoi on n'apprend plus ces choses-là? Je ne sais pas, mais si Bachelard, vous lisez la psychanalyse du feu, c'est quelque chose d'absolument formidable. On y parle des zones objectives impures. Vous vous rendez compte de l'objectivité qui pourrait être impure? Nous sommes en plein cœur là-dedans. Si nous ne sortons pas, en fait, le feu, c'est ça. Le feu, c'est quelque chose qui est métaphysique, qui nous emporte vers la passion. Vers la passion, et on ne voit pas cette passion dans la politique. Tant que la politique va être évolué en dehors de la passion, dans cette froideur comme ça, là, technocratique, ben, on n'y est pas du tout, du tout. On n'a même pas commencé. Ce que je crains pour George Weah, c'est ce que je crains pour lui, c'est une forme d'inexpérience au niveau international, où là aussi, il y a ces lumières, comment il dit, Bachelard, ces lumières, ces légitimités parasites, je ne sais plus comment il a dit, là. Vous retrouverez la phrase. Ce que je crains, c'est que sa vision soit parasitée par ces lumières parasites là, soit floutée, et que, par exemple, là, on a dans le Rand Paul Institute qui précise encore deux ou trois choses sur la perception du terrorisme dans le monde, et on va terminer là-dessus. Terrorisme international, c'est vrai que George Weah va se dire, mais qu'est-ce que je m'en fous de l'international? Je m'occupe, moi, de traiter de l'Ebola, du développement local, mais c'est pas aussi simple. Tout cela, aujourd'hui, ça commence par l'argent, on a très bien vu, ça commence par le national et ça finit par l'international, en passant par l'Union européenne. C'est qu'on est là dans le règne de l'argent, roi. Et cet argent qui crée le terrorisme et qui utilise un autre discours pour camoufler cela. Vous savez, Satan a besoin de Dieu pour s'avancer. Satan n'avance jamais à visage découvert. Il a besoin de tous les attributs comme ça, de Jésus, de Dieu, de Marie et de la Bible pour avancer. Et il se trouve là, dans cet article du Rand Paul Institute, qui essaie quand même de remettre les points sur les i, parce que très longtemps, les médias nous font toujours savoir que oui, mais le terrorisme, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord, vous savez, toutes ces choses-là. Non, c'est même pas subtil, c'est clair et net, et de toute façon, on évacue toujours la responsabilité d'Israël, qui vient de prendre une bonne claque aux Nations Unies, et c'est très bien comme cela, parce que pour une fois, le monde commence quand même à ouvrir les yeux à propos de cette affaire de Jérusalem qu'on veut imposer, comme on a imposé l'État d'Israël comme capitale israélite. Non, ça va pas marcher. Et là, cet article du Strategic Culture Foundation, la stratégie, la fondation, quoi, la culture, comment dire? Bon, enfin, bon, bref, je ne peux pas traduire ça, c'est trop compliqué. Stratégie culturelle, fondation de l'humour, enfin, qui parle d'une stratégie sur ces choses-là. Bon, c'est des stratégies qui analysent les stratégies des acteurs. D'un côté, on a les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël qui tiennent un discours qui est celui de la guerre. qui est celui du maintien de la guerre en Afghanistan, en Syrie, et puis éventuellement continuer à équiper l'Ukraine et puis les terroristes sur la frontière iranienne. Parce que là, Netanyahou est formel, alors qu'eux, ils ont installé avec bon, leur groupement, ils ont installé des bases militaires en Syrie. Si l'Iran en installe une, lui, il va bombarder sans autre forme de procès, parce que Netanyahou, vous savez, il gère tout ce qu'il veut à la région. Et du coup, Netanyahou, Israël et l'Arabie Saoudite se disputent l'hégémonie régionale, enfin veulent être les maîtres de cette région. Et ils font savoir que maintenant, c'est l'Iran qui veut cela. Et donc, si elle se positionne, nous, on va bombarder. Donc, on a tous les droits. C'est comme cela, les terroristes, ça commence par la médiocrité, par le respect du non-droit, par l'irresponsabilité, ça finit par le terrorisme, toujours et toujours et toujours. Alors, cette fondation explique très bien que les Moudjahidines qui opèrent en ce moment sous le couvert, sous le drapeau iranien, sont des groupes terroristes. C'est un groupe terroriste financé par Washington et Tel Aviv. En gros, c'est simple, Washington, Tel Aviv et l'Arabie Saoudite financent, avec le Qatar, financent le terrorisme. Et tous les autres qu'on accuse ne le font pas. Ça, c'est la vérité. Mais pourquoi avons-nous le discours contraire là-dessus? On ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est vrai que c'est les mêmes personnes qui vendent la mort et qui prétendent vendre la vie. Et là, on revient à la psychanalyse du feu, où il dit, le feu, il dit Bachelard, il dit, le philosophe, le feu, c'est à la fois ce qui brille et ce qui brûle. C'est à la fois le paradis et l'enfer. Alors, comment on va s'en sortir avec tout cela en 2018? Chanson d'un évangéliste qui s'appelle Paul Wokocha. Il est nigérian et le Nigeria a beaucoup une tradition là-bas de beaucoup de chorales. Beaucoup de chanteurs passent par des chorales, ce qu'on n'a même déjà pas en France, et ça fait de très 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 grands artistes et une grande diversité de propositions. et qui font que l'industrie musicale là-bas se porte très très bien. Elle n'a pas besoin de l'Occident, c'est autonome, ça évolue, le marché absorbe très très bien, et ça c'est du développement comme on aimerait bien le voir, sans que les lumières parasites... Vous savez maintenant c'est quoi ces Bachelard, viennent comme cela obscurcir la pensée, terroriser les énergies, les figer, les geler, pour pas dire les congeler. Et c'est de ça dont on a besoin aussi, d'une forme de respiration. Amis de Radio Silence, je crois que j'ai fait le tour et puis je suis allée vraiment à l'essentiel. Parce qu'il faudrait que 2018 soit vraiment l'année du redémarrage, du reboot, et qu'on cesse de voir ces petites gesticulations là, longueur de journée, trucs politiques, sans que les choses ne soient traitées en profondeur. Donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes, une très très bonne année 2018, dans la joie, dans la bonne humeur, et surtout dans la passion. Bonne année 2018.
Oh, yeah. Faut chanter, faut chanter.